RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce studio de RCF pour cette nouvelle édition des Racines du présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Alors vous le savez, il est devenu bien difficile aujourd'hui de comprendre les controverses incessantes, répétitives, enflammées autour de la laïcité, ou plutôt des conceptions de la laïcité. Notre laïcité française est-elle unique au monde? Doit-elle être ouverte ou fermée ou radicale? Selon qu'on regarde ce dossier avec des yeux de gauche, de droite, de croyant, d'athée, d'agnostique, eh bien, cette fameuse laïcité n'a pas la même signification. Chacun choisit sa propre laïcité et la confronte à celle des autres. Nous allons donc tenter d'y voir plus clair sur cette fameuse laïcité, sur son histoire, qui semble toujours nous diviser plus que nous réunir. Avec nous pour nous éclairer, deux historiens. Éric Anceau, bonjour.
Bonjour Frédéric Mounier, merci de me recevoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant à la Sorbonne, spécialiste d'histoire politique et sociale de la France contemporaine, notamment du 19e siècle, mais vous êtes ici dans ce studio pour votre dernier livre intitulé « Laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent ». C'est publié chez Passé Composé. Vous y décrivez le rôle de la construction de l'État en confrontation avec les pouvoirs religieux, dont la papauté. Vous évoquez l'influence des guerres de religion, l'intense réflexion des Lumières et de la Révolution. Et vous examinez l'élaboration, nous le verrons tout à l'heure, et le contenu des lois laïques au fil de la Troisième République. Face à vous, Lucien Jaume, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes agrégé de philosophie et directeur de recherche émérite au CNRS, membre du CEVIPOF. Vous enseignez à Sciences Po et vous avez publié notamment une biographie très remarquée de Tocqueville qui a été couronnée par l'Académie française. Votre dernier livre s'intitule « L'éternel défi, l'État et les religions en France, de Charlemagne à nos jours ». C'est publié...
Des origines à nos jours.
On les modifie. Des origines.
D'accord. On les modifie. Je précise, je ne suis pas historien, mais philosophe.
Philosophe, très bien. Et donc, vous vous exprimerez
sur
en
les
tant
données
que...
historiques.
Très bien, vous vous exprimerez en tant que philosophe sur les données historiques que nous évoquerons.
Un autre regard.
Voilà. Oui. Très bien.
Il va se compléter, c'est formidable.
Exactement. Exactement. Alors, à vos côtés également, Bernard Gors, journaliste à La Croix, spécialiste des questions de laïcité. Merci Bernard d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc cette édition des Racines du présent va nous aider à nous y retrouver dans les histoires des laïcités.
Les Racines du présent. Frédéric Mounier.
Alors, vous l'avez entendu, nous avons autour de la table un historien, Éric Anceau, pour son livre « Laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent, chez Passé Composé », et puis un philosophe, donc Lucien Jaume, pour son livre « L'éternel défi, l'État et les religions en France, des origines à nos jours », c'est chez Talendier. Nous sommes également en compagnie de Bernard Gors. Alors, je me tourne d'abord vers l'historien, Éric Anceau. Les origines de la laïcité, ou plutôt des laïcités, sont extrêmement anciennes. Ça s'est passé comment au tout début de notre histoire, les relations entre ce qui n'était pas l'État, mais ce qui était déjà les religions?
Oui, mais au préalable, peut-être faut-il définir ce qu'on entend par laïcité.
Oula, parce tout
que,
de suite.
Oui, parce que si on ne le définit pas, oui. Si on s'enferme en fait dans la loi de 1905.
Oui, oui.
Et on va considérer que la séparation des Églises et de l'État est l'alpha et l'oméga de la laïcité ou des laïcités.
Alors qu'en fait, non, on verra que historiquement, non.
Voilà. D'ailleurs, il y a à travers le monde, je m'empresse de l'ajouter, énormément de laïcité.
Mais
la
oui.
France n'a pas l'apanage de la laïcité. Pourquoi le préalable de la définition
enfin, souvent, la laïcité à la française suscite des incompréhensions chez nos amis étrangers.
C'est une laïcité forte, la laïcité républicaine, une laïcité très très importante. Mm-hmm. Et le monde entier, les Américains, mais également les pays d'islam, ont les yeux tournés vers nous. C'est aussi pour ça, bien évidemment. La laïcité, me semble-t-il, me semble-t-il, se définit par trois choses.
Mm-hmm.
C'est le refus d'abord de l'assujettissement, en fait, du politique et du civil à toute idéologie, et en particulier, ou à côté, aux religions.
Mmh.
Mais c'est aussi le fait que les religions, en quelque sorte, si vous voulez, sont préservées par l'État. Il ne s'agit pas d'écraser, bien évidemment, les religions. Donc ça, c'est la première chose.
Mmh.
La deuxième chose, c'est la préservation du principe de la liberté de conscience, au sens large, qui englobe la liberté religieuse. La liberté religieuse en fait partie, mais c'est plus large encore que ça. Et puis la troisième chose, c'est l'égalité de tous et de toutes devant la loi que l'on croit au ciel, ou qu'on n'y croit pas. Mmh. Alors à partir de ça, une fois qu'on a défini la laïcité comme ça, il n'y a pas, me semble-t-il, mais j'ai un éminent philosophe à côté qui a raisonné aussi
la parole
en profondeur historique, donc peut-être nuancera-t-il ce que je vais dire. Il n'y a pas dans l'Antiquité, me semble-t-il, pratiqué par les États et les sociétés, de laïcité stricto sensu comme je l'ai défini. Mais en revanche, vous avez des penseurs, vous avez des philosophes qui ont déjà une pensée laïque. Par exemple, on peut considérer qu'un Épicure, chez les Grecs, ou son disciple Lucrèce, chez les Romains, eh bien, pratique déjà une forme de pensée laïque.
Alors même que la société grecque ou la société romaine était fortement imprégnée de religieux au sens large.
Totalement. Voilà. Et Socrate, on le sait, l'a payé de sa vie, puisqu'il a respecté les règles de la cité pour avoir enfreint les dieux et il a bu la ciguë.
Alors Lucien Jaume, comment vous réagissez à cette première définition en trois parties proposée par Éric Anceau ? Est-ce que le philosophe s'y retrouve ?
Oui, tout à fait. Je suis assez d'accord. Alors simplement, un premier point, c'est que j'aime beaucoup, beaucoup le fait que Éric Anceau ait dit le refus de l'assujettissement à toute idéologie.
Oui.
Car
pas,
ceci,
pas seulement religieuse.
Voilà.
Voilà.
Car ceci nous ouvre. Personnellement, je donne à la fin du livre ma définition de la laïcité, mais en philosophie, Et ça nous ouvre à l'idée que j'aime bien chez un certain nombre de philosophes, de Descartes jusqu'à Alain, chez les rationalistes, à savoir que le plus difficile pour nous, ce n'est pas de dire non aux tyrans, là je cite Alain, ce n'est pas de dire non aux tyrans, non à l'opinion dominante, non aux apparences. Le plus difficile, c'est de dire non à notre assentiment aux tyrans, à l'opinion dominante, aux apparences.
Vous voulez dire notre assentiment naturel ?
Naturel, spontané. Penser, c'est dire non dans un texte, dans un propos d'Alain qu'on donne souvent au baccalauréat, ou qu'on donnait souvent au baccalauréat, heureusement. Penser, c'est dire non, ce n'est pas une attitude nihiliste, c'est pour moi le cœur même de la philosophie laïque, c'est-à-dire que penser, c'est chercher une liberté, y compris contre ses propres préférences, son propre parti, ses propres choix. Religieux notamment.
Oui, oui, voilà donc une incitation à l'esprit critique.
À l'esprit critique, voilà.
Éric Anceau.
Ah, je rebondis, je plus sois à ce qui vient d'être dit. Claude Nicolet, qui est un de nos plus grands historiens de l'Antiquité romaine et qui est aussi un grand historien de la République, de la Troisième République, parlait de laïcité intérieure, justement. Donc ça rejoint tout à fait, je crois, ce que vous dites.
Tout à fait. Et le deuxième point que, sur lequel je voulais intervenir, c'est que j'ajouterais personnellement à cette définition de la laïcité pour notre constitution de la Ve République, mais depuis la Troisième République, j'ajouterai l'égalité entre les religions. Ce qui nous mène à un devoir constitutionnel que vous connaissez bien, Éric Anceau, qui est de donner à l'islam l'égalité avec les autres.
Alors, cultes. On va y venir, parce que, évidemment, la question des islams est une question très importante aujourd'hui.
Égalité, on a dit égalité. Attention, égalité entre les individus.
Très bien.
Mais aussi entre les religions.
Alors, remontons, si vous le voulez bien, le cours du temps. Éric Anceau, ça a commencé quand et comment, la laïcité ? Vous avez cité Épicure, Lucrèce.
Alors, on peut faire un bond dans le temps,
allez-y,
si vous voulez, pour
allez-y,
aller vers le
ça,
Moyen-Âge, puisqu'il faut aussi qu'on parle, bien évidemment, d'actualité, et puis de la Troisième République, qui est fondamentale. Moi, il y a une étape qui me semble tout à fait importante, et je crois que dans son livre, chez un très bon éditeur, d'ailleurs, qui est aussi l'un de mes éditeurs talendiers, Lucien Jaume aborde cette question. C'est bien évidemment la confrontation du pouvoir royal capétien français.
Voilà.
Avec, d'une part, l'Église, mais également dans un jeu à trois avec le Saint-Empire romain germanique. Puisqu'il y a, on vous évoquait tout à l'heure le pape Grégoire, les Dictatus Papae, le Dictatus Papae de 1075, par lequel le pape tend à affirmer sa domination sur le pouvoir temporel, le Saint-Empire romain germanique, il y a une très forte confrontation.
Voilà.
Et le roi de France va profiter de cette confrontation pour tirer en quelque sorte les marrons du feu et s'affirmer par rapport à l'Église.
Donc ça, on l'a oublié, il faut le rappeler, ce jeu à trois entre le roi de France, qui est à la recherche en permanence, on le verra, d'une certaine autonomie, le pape, le Saint-Père, qui est un souverain pontife, c'est-à-dire qui est à la tête d'un État, et le Saint-Empire romain germanique.
Exactement.
Voilà, c'est ce jeu qui a duré longtemps.
Qui a duré extrêmement longtemps, on peut le dire, jusqu'à la République d'une certaine façon.
C'est ça.
Mais il va y avoir par les rois capétiens une affirmation. Alors certains d'entre eux vont la rendre plus grande que d'autres. On peut évoquer Robert le Pieux, le fils du Capet. Mais surtout, bien évidemment, le roi qui me semble très très important, c'est Philippe le Bel, au tournant du XIIIe et du XIVe siècle.
Qui s'est affronté à Rome.
Ah ben oui, il va même être excommunié deux fois.
Voilà, donc... c'est ça.
Je voudrais ajouter aussi que comme le dit Aristide Briand, quelle référence.
Vous nous ramenez toujours.
Comme le dit Aristide Briand dans les 50 pages de préface à sa loi de 1905, il faut partir, dit-il, de Pépin le Bref, le père de Charlemagne.
Oui. Oui.
Car entre Pépin le Bref et le Saint-Père, qui est Étienne II, un accord est conclu. Vous me délivrez des Lombards, vous me créez des états du pape, et moi je prends la France sous ma protection spirituelle.
Voilà, donc il s'agit bien c'est un véritable enjeu géopolitique et géostratégique.
Voilà.
On n'est pas uniquement dans le domaine éthéré du religieux.
Absolument.
Tout à fait. Et Ferdinand Buisson, qui est le premier à nous proposer une grande définition de la laïcité, remonte lui aussi, comme Aristide Briand le fera 25 ans plus tard, à la monarchie capétienne, aux politiques.
Et là, c'est carolingien, là.
Bien sûr.
Voilà,
exactement.
Oui.
Tout à fait. C'est carolingien.
Oui.
Tant pis pour mon ami Renouvin, mais ça ne commence pas avec les capétiens.
Bernard Gorz, vous qui êtes journaliste et qui portez un regard contemporain, cette histoire vous paraît-elle connue ?
Pas assez, effectivement. Oui. Ce que l'on doit à l'Ancien Régime, avant 1789, les racines de cette séparation de la laïcité est peu connue, puisqu'en France, on fait tout remonter au mieux à 1905, au pire à 1789, plutôt l'inverse. Au pire
nous en parlerons naturellement. Mais
voilà. Et donc ça, c'est peu connu. Un autre aspect, alors, j'ai déplacé un petit peu le débat, mais souvent on entend cette affirmation selon laquelle cette séparation des ordres, cette séparation politique aussi, n'aurait pas pu voir le jour en dehors du christianisme. C'est le christianisme qui pose aussi ce principe de séparation. Est-ce que si on va très loin, il ne faut pas faire remonter la laïcité aux évangiles?
Alors, c'est une question très complexe.
Oui.
Et peut-être que le philosophe sera plus à même de le dire ici que l'historien. C'est ce que dit par exemple Marcel Gauchet, effectivement. Il dit que la laïcité s'est véritablement épanouie en Occident parce qu'elle a pu s'épanouir dans le cadre du christianisme. Avec l'islam,
rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà.
Avec l'islam, qui propose une vision de la société complète, où la religion
globalisante
est très politique, il est clair, ce qui ne veut pas dire, attention, que la laïcité n'est pas compatible avec l'islam.
On en parlera
mais
tout à l'heure.
Mais là, il y a une véritable difficulté, bien moindre avec le christianisme, je pense.
Alors, Lucien Jaume, vous êtes philosophe. Les évangiles sont-ils l'une des sources de notre laïcité?
Absolument. Oui. Mais je trouve que la question est beaucoup plus complexe. Car ce que j'ai essayé de montrer, que je n'invente pas, qui est bien connu des historiens aussi, c'est que l'Église catholique et l'État en France n'ont cessé de s'imiter réciproquement.
De s'imiter. Le mot est important.
La plénitude, la plenitudo potestatis, la plénitude de puissance du pape est la racine intellectuelle et idéologique de la souveraineté de l'État. Pardon.
De la souveraineté de l'État monarchique.
De l'État monarchique.
Oui.
Et j'essaye de montrer qu'en réalité, l'Église a essayé de devenir quelque chose, une institution, sur le modèle de l'État, et que l'État a essayé constamment, ça se voit très bien entre Bossuet et Louis XIV, dans le gallicanisme. L'État, inversement, a une immense admiration et une immense jalousie envers l'Église catholique. Quelle jalousie ? La jalousie de l'unité dans la hiérarchie. Et le dialogue entre Bossuet, Fénelon, qui est critique, et Louis XIV, ce triangle où Bossuet soutient le roi qui est évêque de l'extérieur, et Fénelon qui critique en disant « le roi est plus pape que le pape en France », ceci, à mon avis, est un germe qui continue jusqu'à aujourd'hui.
Donc c'est en quelque sorte un jeu de miroir, si je vous ai bien compris.
C'est un jeu de miroir entre les deux institutions.
Alors, je me tourne vers l'historien Éric Anceau. Rappelez-nous ces notions dont nous n'avons qu'une idée un peu éloignée, mais le gallicanisme, par exemple. Est-ce bien l'expression de ce jeu de miroir? Expliquez-nous, Éric Anceau.
Exactement, parce que le gallicanisme, c'est une volonté pour le souverain, en l'occurrence le monarque absolu, Louis XIV, qui s'appuie sur Bossuet, qui va définir par la déclaration des quatre articles, ce gallicanisme, de s'émanciper en quelque sorte du pape.
C'est ça.
Ça, c'est tout à fait fondamental.
On rejoint ce jeu de billard à trois banques que vous évoquiez tout à l'heure.
Mais je reviens sur un autre élément qui est très
émancipation
très,
et mimétisme
très
à la fois.
Très important. Allez-y,
Éric Anceau.
Lorsqu'un historien s'intéresse à la laïcité, il a tendance à exclure Louis XIV. On va évoquer l'édit de Nantes. Parce que l'édit de Nantes d'Henri IV, c'est ce qui pacifie la France après la période très douloureuse des guerres de religion. Et on dit, il y a un retour en arrière complet avec Louis XIV. Mais Lucien Jaume vient de le rappeler. C'est tout à fait fondamental, le mimétisme monothéisme, avec le pouvoir spirituel, avec la papauté, dans ce qui va advenir après de la laïcité.
Et ce qui est encore plus complexe, c'est que, en deux mots, le pouvoir spirituel a voulu être un pouvoir temporel. L'Église a voulu être une véritable souveraineté politique. Et encore aujourd'hui, il y a un petit État du Vatican, bien, même si c'est très différent. Et le pouvoir temporel, alors là, c'est l'aspect principal de mon livre, le pouvoir temporel de Louis XIV à Jules Ferry et à Vincent Peillon et peut-être à Blanquer aujourd'hui a voulu être un pouvoir spirituel. La République, la thèse de mon livre, c'est que la République, et je ne lui reproche pas, la République veut être un pouvoir spirituel.
C'est un constat.
À la place de l'Église catholique, l'expulsion de l'Église par Jules Ferry de l'école et l'expulsion de l'Église de l'alliance avec l'État par Aristide Briand en 1905, c'est aussi l'assomption.
Vous utilisez ce mot-là.
À dessein. C'est aussi l'assomption des valeurs de la République qui sont issues du christianisme. Liberté, égalité, fraternité. Et c'est l'héritage chrétien.
Le lieu de cette assomption n'est-il pas le Panthéon? Église, ancienne église Sainte-Geneviève.
Parmi d'autres.
Avec un jeu de rivalité très intéressant depuis la Révolution, puisque selon les régimes, certains vont le rendre au culte catholique. Je pense en particulier à la Restauration, au Second Empire, et d'autres au contraire, Deuxième République.
Donc il y a ce jeu de va-et-vient.
Exactement. Donc c'est très
intéressant. Alors, on va arriver sur nos.
Je crois au cœur du problème, du vrai problème de la laïcité française. Nous sommes tout à fait là, au
cœur. Sur ce jeu de miroir.
Mais... Sur ce jeu de miroir et sur cet héritage chrétien indéniable.
Alors, si vous voulez bien, avant de revenir au cœur, je voudrais qu'on remonte un peu le cours de l'histoire pour nous aider à resituer quelques balises. Vous avez évoqué, Éric Anceau, les guerres de religion. Ça a été quand même un moment à la fois tragique et essentiel de l'histoire de nos laïcités.
Tout à fait. Donc ces guerres de religion, il y en a plusieurs, qui vont occasionner des morts d'ailleurs des deux côtés, entre catholiques et protestants. On oublie trop que les protestants, Calvin en particulier, qui va quitter le royaume pour ne pas peut-être être exécuté, à Genève où il va s'implanter, va se faire à son tour persécuteur.
On va brûler du monde à Genève.
Et voilà, et en particulier Michel Servet, le médecin espagnol, mourra martyr en quelque sorte d'une cause laïque, on peut presque le dire. Alors il y a un parti pendant cette période qu'on appelle les politiques qui entourent Catherine de Médicis, la régente, on pensera à Michel de l'Hôpital, qui vont justement chercher à éviter, trouver une solution, une médiation pour éviter ce problème. Mais il faudra attendre Henri IV et l'Édit de Nantes, qui est un texte très intéressant, texte qui va être honni à travers toute l'Europe.
Honni.
Ah oui, véritablement.
Parce
les Anglais sont jaloux, ils ont trouvé une autre solution un petit peu plus tôt avec Henri VIII, et ils voient que les Français...
Ils ont créé leur propre église.
Exactement. L'église anglicane. Le pape est absolument furieux. N'oublions pas que le roi de France, c'est le roi très chrétien. Donc là, que fait-il? Il accepte les protestants, mais c'est simplement pas possible. C'est une tolérance, cependant. Je rappelle que tolérare, c'est supporter ce qu'on ne peut supprimer. Mais quand même, ils ont des places de sûreté, ils pourront avoir des écoles, etc., etc. C'est quand même très important ce qui est accordé aux protestants.
Et une juridiction. Très importante pour les conflits.
Tout à fait.
Une juridiction est créée.
Tout à fait.
Mais tout ça dans un contexte extraordinairement tendu et sanglant.
Tendu, il y aura des tensions à la suite, c'est-à-dire que bien évidemment après avec Richelieu on connaît le siège de La Rochelle, et on revient à Louis XIV, c'est vrai que Louis XIV révoque l'édit de Nantes en 1685.
Les racines du présent, RCF.
Aujourd'hui, dans les racines du présent, nous essayons de nous y retrouver dans l'histoire de nos laïcités, qui sont bien compliquées. Nous avons avec nous un historien, Éric Anceau, pour son dernier livre « Laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent ». C'est publié chez Passé Composé. Puis un philosophe, Lucien Jaume, pour son livre chez Talendier « L'éternel défi, l'État et les religions en France, des origines à nos jours ». Et puis nous sommes également en compagnie de Bernard Gors, journaliste à La Croix, spécialiste des questions de laïcité. Alors, dans la première partie de cette émission, nous avons tenté de remonter le cours de l'histoire depuis Hugues Capet jusqu'à Louis XIV. Nous avons travaillé ce jeu de miroir, ce mimétisme assez passionnant entre le pouvoir politique en France et le pouvoir religieux. Nous avons vu qu'il s'agit bien d'un jeu de billard à trois bandes, d'un enjeu géostratégique, géopolitique au niveau européen entre le roi de France, le pape et le Saint-Empire romain germanique. On va y venir, si vous voulez bien, au choc révolutionnaire. Évidemment, 1789, Éric Anceau, rappelez-nous comment ça a commencé tout ça.
En 1789, il y a un texte fondamental qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, août 1789, qui puise ses racines dans les Lumières, hein, et qui va, entre autres, évoquer la liberté religieuse, la liberté d'expression. La liberté, c'est le mot très fort de cette déclaration. Mais on peut peut-être rappeler en amont que les Lumières jouent un rôle fondamental l'affirmation d'une laïcité, mais que ces Lumières sont très complexes, hein, parce qu'il y a différentes conceptions, je dirais, du rapport entre le politique et le religieux. Je pense que Lucien Jaume en parlera mieux que moi. Entre un Diderot, entre un Voltaire et un Rousseau, on a trois conceptions très très différentes de la laïcité. Rousseau, par exemple, vous évoquiez tout à l'heure une pente vers une religion civile, c'est la religion civile. Voltaire, c'est encore autre chose, c'est un respect plus grand des religions.
Oui.
On garde en tête le combat de Voltaire contre les jésuites. Dieu sait qu'il était important, mais Voltaire respecte en fait les religions. Quant à Diderot, lui, c'est une vision beaucoup plus athée. Et alors, si on va vers D'Holbach, encore plus que ça. Donc, vous voyez, il y a différentes conceptions.
Une grande diversité. Lucien Jaume, vous confirmez cette diversité.
Tout à fait.
La Révolution, ce n'est pas uniquement les francs-maçons contre l'Église.
Oh, absolument pas. Voilà. Absolument pas. Ce qui est très important à mes yeux dans la Révolution, c'est la constitution civile du clergé, où l'État en quelque sorte nationalisé l'Église, puisqu'il n'y a plus de diocèse, il n'y a que des départements. Il n'y a plus... les évêques et les curés sont élus par les citoyens, exactement les citoyens les plus riches, les citoyens actifs. Aucun lien, aucune négociation n'a été menée avec le pape. Aucune négociation n'est menée avec l'Église de France. Les évêques sont bien présents, ils sont à peu près 80 dans l'Assemblée constituante, mais ils sont là finalement en tant que citoyens, non pas en tant qu'évêques, et donc on ne les consulte pas proprement parler, on leur demande simplement si oui ou non ils participent à la rédaction et au vote de la constitution civile du clergé, qui va être un immense désastre, car la moitié des curés va l'accepter, la moitié des curés va s'y opposer. Aucun évêque, sauf Talleyrand et deux autres, ne vont accepter la constitution civile du clergé. Il va y avoir un schisme au sein de l'Église.
Un schisme, c'est ça.
La Vendée va se soulever contre la Révolution française, en grande partie pour cette question-là, mais aussi la question du roi et quelques autres questions. Bref, c'est un tel désastre que Bonaparte en tirera la leçon. Il faut signer un concordat.
Merci pour cette synthèse rapide.
Et entre les deux, si je puis me permettre, synthèse brillante et je suis totalement d'accord. Il y a un essai aussi en 1795 15. De première séparation de l'Église et de l'État.
Tout à fait.
Donc la Révolution a été un laboratoire qui va rejouer après tout au long du 19e siècle.
Une question de Bernard Gors, la Croix.
Oui, vous faisiez allusion à la constitution civile du clergé. C'est selon vous ce qui va faire un petit peu déraper ou qui va empêcher la laïcité à ce moment-là de véritablement pacifier le pays, et il faudra attendre peut-être centaines d'années pour arriver à retrouver un juste...
Est-ce que ça a mis le feu aux poudres?
Ça a mis le feu aux poudres, mais par rapport à la laïcité, la présentation du projet de loi, je l'ai beaucoup étudié, celui qui présente le projet de loi dans l'Assemblée constituante, est extraordinairement ambigu. Car il explique que Jésus-Christ, notre Sauveur, est celui qui doit permettre de comprendre les principes de 1789 qui vont désormais dominer une Église qui doit appliquer les principes de 89. Autrement dit, ce n'est pas du tout l'idée de laïcité. Jean Jaurès en parle très bien dans son Histoire socialiste de la Révolution française. Ils sont passés à côté de la laïcité, dit Jaurès. Oui. Il leur reproche d'ailleurs. Ils sont passés à côté de la laïcité du fait que, en réalité, ils ont voulu se légitimer, les constituants ont voulu se légitimer, non seulement par la souveraineté de la nation.
Mais par l'Évangile.
Mais par Jésus-Christ.
Ah oui. C'était une sorte d'annexion, c'est ça?
Annexion.
Oui.
Une sorte d'annexion.
D'accord.
Et de ce point de vue, l'idée laïque ne peut pas entrer. Ne peut pas entrer.
C'est ça, il n'y a pas de jeu.
Il n'y a pas de jeu.
Il n'y a pas de jeu possible.
Il n'y a pas de jeu.
D'accord.
Encore une fois, le rapporteur, qui a gain de cause, la constitution est votée, le projet est voté, le rapporteur ne se place pas du tout dans une optique neutre ou laïque.
Alors au milieu de tout ça,
ce sont des jansénistes, ce sont des richéristes qui sont derrière.
Ils ont une culture,
ils ont une culture religieuse,
religieuse qui est derrière. Oui. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas une pure manipulation politique. On se tromperait. Non.
Non.
C'est le résultat d'une histoire.
C'est l'expression d'une culture.
C'est l'expression d'une culture.
C'est ça, tout à fait. D'accord.
Alors ils sont naïfs en ce sens qu'ils croient que, en se passant de tout accord avec le pape et en se passant d'une réunion, quelle qu'elle soit, assemblée générale ou concile de l'Église catholique. catholique. Ils sont naïfs en ce sens qu'ils croient qu'ils peuvent ainsi réformer totalement l'Église.
Ils se prennent pour le pape, en quelque sorte, c'est ça.
Si vous voulez. Oui. Enfin, bon, si vous
mais, voulez. Mais ça ne pouvait pas marcher.
Ça ne pouvait pas marcher. C'est une illusion. Alors, extraordinaire.
Il y a une personnalité intrigante au milieu de tout ça, Éric Anceau, c'est celle de l'abbé Grégoire.
L'abbé Grégoire est très important. Déjà,
représente-t-il?
Il intervient dans tous ces débats. Mmh. Et puis, il est celui qui va permettre, on évoquait l'égalité de l'islam dans la laïcité, il est celui qui va permettre l'émancipation des juifs. Il y a l'égalité pour les protestants qui va arriver, qui va devenir assez tôt. Pour les juifs, ça va être un petit peu plus complexe. Mmh. Ça va se faire en plusieurs étapes. Une première étape au moment de la Révolution. Une deuxième étape, alors là, très verticale avec Napoléon au moment du Premier Empire. Mmh. Et la troisième étape sous la monarchie de Juillet. Mais déjà, c'est initié et l'abbé Grégoire, il prend une très, très grande place.
Alors, l'abbé Grégoire... Que disait le pape de l'abbé Grégoire?
Le gros problème, c'est que l'abbé Grégoire était le chef ou l'un des chefs, oui, du fameux clergé constitutionnel dont on parlait tout à l'heure, donc rallié à la Révolution. Et pour le pape, c'était simplement insupportable.
Alors, on va revenir sur cette idée de schisme. L'Église a vraiment été séparée, cassée.
Séparée.
Hein. Sur quelle base exactement? Quelle était Est-ce que c'était le serment que les prêtres devaient
prêter? D'une part, les serments, parce qu'il y en a eu plusieurs sous la Révolution, et c'est d'une très très grande complexité. Certains prêtres ont prêté les premiers serments, qui n'étaient, certains étaient très intrusifs, mais d'autres moins, mais ils ont refusé les autres, donc vous voyez, et puis les persécutions vont advenir après, de la terreur. Donc,
le mariage obligatoire.
Le mariage obligatoire des prêtres, à certains moments donnés, donc c'est vraiment une intrication, une complexité très très grande à ce moment-là.
Et on peut aussi aller, il faudrait aussi aller sur le plan théologique, bien qu'ici on ne puisse pas développer, théologique et ecclésiologique, car cette transformation profonde de l'Église, le débat d'ailleurs a lieu à l'époque. Est-ce que oui ou non, ça touche au dogme?
Voilà.
Et certains, ont considéré que cela touchait au dogme. Car refaire, par exemple, supprimer d'un trait de plume les circonscriptions traditionnelles où l'évêque s'implante dans la communauté, dans les familles, etc. Supprimer cela et dire l'évêque est évêque d'un département, par exemple, et c'est un fonctionnaire qu'on envoie ou l'État juge bon de l'envoyer, apparemment, quand même, c'est nier toute l'ecclésiologie acquise. Bon, je n'irai pas plus loin.
Oui.
Mais c'est un vrai débat...
historique depuis longtemps.
Tout à fait.
Voilà. Et puis, il y a eu quand même la nationalisation des biens du clergé, il faut le rappeler.
Parce que ce qui a déclenché la révolution, c'est que l'État était aux abois financièrement. Il va chercher l'argent où il se trouve. Et donc, en novembre 1789, c'est Talleyrand, imaginez, l'évêque d'Autun, alors lui aussi peu apprécié du pape, qui va proposer cette nationalisation pour résoudre ce problème.
Et qui va donc concourir à enrichir la classe moyenne française, la petite bourgeoisie française.
Oui, par la revente de ses biens nationaux. Voilà. Effectivement, donc la bourgeoisie, les paysans les plus fortunés, qui s'associeront parfois en syndicat pour acquérir ces biens.
D'accord. Donc il y a cette tension entre, si je vous entends bien, l'historien et le philosophe, le peuple français qui est fondamentalement religieux, et une partie va se rebeller contre la révolution, mais une autre partie aussi va y trouver son compte.
Bien sûr.
Du point de vue matériel.
Tout à fait.
Bien sûr.
Alors, quelle place occupe dans cette affaire-là le culte de l'être suprême? Est-ce que vraiment la Révolution a voulu construire une autre religion? Vous qui parliez de mimétisme tout à l'heure, Lucien Jaume, est-ce qu'on n'est pas au cœur de ce mimétisme-là?
Tout à fait. Robespierre va jusqu'à écrire et faire voter par la Convention des devoirs de l'homme et du citoyen. Lui qui s'était opposé jadis à ce que demandait l'abbé Grégoire, c'est-à-dire que la déclaration soit une déclaration des droits et des devoirs. Il va jusqu'à demander des devoirs de l'homme envers Dieu.
Envers l'être
suprême.
Oui, alors voilà.
Alors, qui est l'être suprême?
De qui s'agit-il?
Je ne sais pas.
Oui.
Il dit parfois la nature aussi. Il dit l'être suprême ou la nature. Mais je laisse parler Éric Anceau.
Oui, alors Robespierre a des principes spirituels très ancrés. On évoquait tout à l'heure les philosophes des Lumières. Le grand philosophe de Robespierre, c'est Rousseau. Donc c'est l'idée d'une religion civile qui va s'appuyer sur la spiritualité, mais pour le plus grand bien de la République. Donc finalement, c'est quelque chose qui n'adviendra pas en France à la suite. Notre histoire, on l'évoquera peut-être Napoléon et voilà. Du 19e siècle, puis les républicains qui vont être en confrontation avec la renaissance d'un catholicisme fort, va empêcher que cela n'advienne. Ça adviendra dans d'autres pays.
Oui, ça n'a pas pris.
D'autres pays qui ont une religion civile.
Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce plan parce que je pense que le culte de l'être suprême de Robespierre n'est pas la religion civile de Rousseau, bien qu'il y ait eu un débat d'ailleurs la Convention explicitement là-dessus. Je pense que ce que Robespierre veut... Écoutez, je vais vous donner une formule Robespierre qui est extraordinaire. Allez-y. Elle est de 1790, elle est très tôt. Dieu a voulu la Révolution française. Je m'arrête là.
Oui, quand même, poursuivez.
Au club des Jacobins.
Poursuivez, Lucien Jaume. Que voulait-il dire?
Il développe, il dit « Moi, je pense que ce grand événement historique, qui est aussi un grand événement européen, comme il l'explique dans un grand discours ensuite sous la terreur, il veut dire que Dieu veut punir les méchants et récompenser les bons. Mmh. Il va finir par le dire au moment de la terreur. C'est l'un des sens qu'il donne à la terreur. Et... il veut, j'ai perdu la deuxième idée que je voulais donner, qui était rattachée à cela. Enfin bon,
on est toujours dans ce jeu de miroir.
On n'est pas très loin de l'extrême droite de l'époque. On n'est pas très loin de Bonald. On n'est pas très loin de Demestre. C'est très curieux.
Vous voulez dire des contre-révolutionnaires?
Des contre-révolutionnaires.
Des monarchistes.
C'est-à-dire que la Révolution française, dit Robespierre l'a dit trois fois au Club des Jacobins, trois fois. C'est le doigt de Dieu sur la France.
Donc c'est la même chose d'une certaine façon. Les extrêmes se...
Vous savez, on
déjà,
est en train de débattre aujourd'hui ici. Oui, c'est ça. Avant-hier, j'ai entendu un débat que je ne nommerai pas à télévision sur comment vous osez rapprocher l'extrême droite et l'extrême gauche.
Mais oui.
Voilà. Là, très curieusement, Robespierre est d'accord pour dire que le destin historique de la Révolution française vient de la transcendance. Il le dit, il le dit, il le redit.
Mais de quelle transcendance?
Il fait trois discours au moment du culte de l'être suprême.
Là est la question.
Exactement.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Les racines du présent aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Éric Anceau, historien, et de Lucien Jaume, philosophe. Et avec eux deux, et puis Bernard Gorce, journaliste à La Croix, nous essayons de nous y retrouver dans les histoires de nos laïcités à la française. Et on voit à quel point cela est passionnant et compliqué. Je rappelle les titres des livres de nos invités. Éric Anceau, Laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent. C'est publié chez Passé Composé. Et Lucien Jaume, L'éternel défi, l'État et les religions en France, des origines à nos jours. C'est chez Talendi. Alors nous avons vu les guerres de religion, nous avons vu l'absolutisme, nous avons vu les chocs révolutionnaires. Nous en arrivons donc à, en quelque sorte, la pacification napoléonienne. Éric Anceau, Napoléon a voulu remettre de l'ordre dans cette religion de la majorité des Français.
Tout à fait, comme il disait. C'est fondamental pour lui. On doit rétablir l'équilibre de la société. La société est clivée, elle est divisée. Il faut jeter des masses de granit dans le sol pour que cette société se reconstitue. Et dans l'ordre spirituel, ça va être un accord passé avec le pape, un concordat.
Un accord. Vraiment un accord. Alors, le pape a été kidnappé quand même, non? Il faut rappeler.
Oui, par les révolutionnaires. Oui. Et puis, il le sera ensuite par Napoléon. Mais dans l'entre-deux, il y avait une négociation qui avait lieu et le pape était rentré à Rome. C'est un accord dissymétrique, indéniablement. Pour Napoléon, si vous voulez, ce qui compte, c'est l'État et la religion catholique, dont il ne nie pas qu'elle est fondamentale, parce que c'est la religion, comme le dira le préambule du Concordat, de l'immense majorité des Français, mais doit être en quelque sorte instrumentalisée, si vous voulez.
C'est ça.
On ne revient pas sur le principe des diocèses départementalisés. Les prêtres deviennent des fonctionnaires d'État. Ils devront même trahir le secret du confessionnel quand ils ont vent d'un complot contre la sûreté de l'État.
Déjà, la question était d'actualité.
Exactement. Il y a des parallèles.
Pas sur le même sujet qu'aujourd'hui.
Il y a des parallèles assez fascinants avec notre actualité.
Oui.
Et un dernier élément qui montre, et Gérald Darmanin l'a utilisé il y a un an et demi de cela, le parallèle avec notre actualité, c'est que Darmanin et d'autres veulent faire avec la religion musulmane ce que Napoléon Bonaparte a fait avec le judaïsme.
Avec le judaïsme. Rappelez-nous en deux mots quel était le statut que Napoléon a construit pour le judaïsme.
Eh bien, l'idée, c'est de faire des juifs, des citoyens français à part entière. Alors, par étapes, ça n'est pas directement fait par Napoléon. Comme je l'ai dit, il y aura des étapes successives. Et d'ailleurs, j'ai oublié entre-temps la Restauration. On peut rendre aussi hommage sur ce point précis à la Restauration. Et c'est la monarchie de Juillet qui poursuivra. Mais de faire de ces Juifs des citoyens à part entière. Ils abandonneront ça nous renvoie ici à un autre candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, leur prénom, leur nom, de manière à prendre un état civil. Et jusque-là, c'est possible. Oui. Et ils rentreront dans le droit commun.
Oui. Bernard Gorz, vous êtes frappé par ces ressemblances.
Oui, j'allais dire, qu'est-ce qu'on doit finalement aujourd'hui à Napoléon pour ce qui est de la laïcité aujourd'hui, y compris dans notre compréhension aujourd'hui de la laïcité?
Je préfère d'abord laisser parler le spécialiste de Napoléon.
Alors, Éric Anceau.
Je dirais que là, c'est très controversé. Très controversé. On n'a pas encore évoqué d'éminents spécialistes de la laïcité. On peut donner peut-être à nos auditeurs deux noms. Ils ne sont pas du tout d'accord. Ce sont de grands savants. Mm-hmm. Mais nous, je pense, aussi bien Lucien Jaume que moi, on va se donner le beau rôle, dans une neutralité axiologique que n'ont pas toujours des partisans d'une laïcité intransigeante.
Allez, va pour la neutralité axiologique.
Comme Henri Peignard-Ruiz, qui a tendance, me semble-t-il, à enfermer la laïcité dans la loi de 1905. Et à l'inverse, vous avez Jean Bobéreau, qui est un autre grand spécialiste de la laïcité, qui dit que c'est un processus certes de temps long, mais pour défendre une idée d'une laïcité ouverte vers laquelle il veut à toute force nous entraîner. Et ce que dit Jean Bobéreau, et là sur ce point je le rejoins, il dit que le concordat est un seuil de laïcité. C'est-à-dire là, un peu dans le long processus de notre histoire, était un seuil très très important grâce à Napoléon, avec cette volonté d'instrumentalisation. Un Henri Peignard-Ruiz dira « Oh là là, non, la laïcité elle ne commence, on va le voir tout à l'heure ». Qu'avec la Troisième République.
Mais on peut quand même dire, Éric Anceau, que sur la période 1815-1879, on a assisté à l'affrontement de deux Frances autour de cette question.
Et là, pour des motifs principalement politiques, mais là, la religion est derrière, nous ne cessons pas de changer de régime.
Oui.
Après, donc, Napoléon, nous avons la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Deuxième République, le Second Empire, avant qu'une guerre que vous connaissez bien, la guerre de 1870, ne renverse notre dernier souverain, Napoléon III, pour la mise en place de la Troisième République.
Et donc, il faut rappeler qu'à travers la Restauration et le Second Empire, l'Église a retrouvé un rôle qu'elle avait perdu.
Surtout sous la Restauration, parce que Napoléon III a la même conception de l'État et des rapports entre la religion et l'État que son oncle Napoléon. Donc, si vous voulez, c'est là une religion sous contrôle. Voilà, il va s'opposer très fermement au pape à plusieurs reprises, dans plusieurs affaires. Ce qui ne sera beaucoup moins le cas aussi bien de Louis XVIII et de Charles X. Ça arrivera un peu, mais c'est complexe. Je ne veux pas entraîner nos auditeurs sur un terrain trop compliqué. Ça sera beaucoup moins le cas sous la Restauration.
Alors venons-en à cette période fondatrice de notre laïcité aujourd'hui. C'est cette grande période 1880-1914, la mise en place d'une laïcité républicaine. Ça a été quand même violent, Éric Anceau.
Alors, ça a été très violent. Ça commence par l'école, on peut le rappeler.
Alors,
C'est le combat pour une école laïque gratuite et obligatoire, c'est le ministre Jules Ferry, ce sont les lois de 1880-1882. Et dans la foulée, vous avez un premier train de mesures qui va laïciser en grande partie la Nouvelle République.
Alors, il faut peut-être rappeler que une partie de l'école était prise en charge par les congrégations.
Une très très
historiquement,
grande partie, bien évidemment.
Voilà.
Une très très grande partie. Et c'était fondamental, bien évidemment, parce que c'était former la jeunesse, et former la jeunesse dans les campagnes. À l'époque, l'immense majorité de la population est encore une population rurale. Mais on limite trop cette séquence à cette loi, à ces deux lois. Il y a d'autres choses, je vais en rappeler quelques jalons, si vous voulez, très brièvement. La laïcisation des cimetières, le fait qu'on va retirer...
Alors, la laïcisation des cimetières, racontez-nous.
Le fait que désormais, dans les cimetières, vous allez pouvoir avoir des tombes qui vont se côtoyer, qui sont les tombes d'un agnostique, d'un athée, d'un catholique, d'un juif, etc.
Ce qui n'était pas possible jusque-là.
Non. Alors, deuxième élément qui est fondamental, on retire les crucifix des établissements publics. Troisième mesure, imaginez qu'à l'époque, il y avait des prières avant l'ouverture des sessions parlementaires. Ces prières sont supprimées. Et le retour du divorce. La Révolution et Napoléon avaient mis en place le divorce. À la Restauration, ce divorce avait été abrogé. Et la loi Naquet de 1884 rétablira le divorce. J'ajoute un tout petit élément. Ces républicains qu'on nous présente comme monolithiques n'ayant qu'une pensée sont très divisés. Je viens d'évoquer Jules Ferry. Mais Jules Ferry n'était pas pour la séparation des Églises et de l'État. Il se méfiait de l'Église et il trouvait que le système concordataire était favorable. Alors, je ne vais pas faire dire à Jules Ferry ce qu'il n'a pas fait et ce qu'il n'a pas dit parce qu'il meurt au début des années 1890 et il n'interviendra pas dans le débat de 1904-1905. Peut-être aurait-il évolué vers la séparation. Mais en tout cas, il n'en était pas partisan dans les années 1890.
Une question de Bernard Gorz à la Croix.
Oui, sur le, vous avez évoqué donc la loi sur l'école, qui est quand même effectivement la plus connue aujourd'hui. Mais il y a tout ce qui va se passer après, surtout. Et c'est entre l'adoption de la loi de séparation de l'Église et de l'État, il va y avoir un long temps avant que véritablement le dispositif trouve jusqu'à
l'équilibre,
jusqu'à 1914 finalement. Enfin, ça va être très long.
Oui. Alors, avant que le régime ne trouve son assiette, ça va être extrêmement compliqué. Les congrégations vont être persécutées au début, expulsées même au début du XXe siècle. D'ailleurs, c'est ce qui fera que le jeune Charles de Gaulle ira étudier pendant un moment donné en Belgique. Hein, il faut le savoir, parce que la frontière depuis Lille où il se trouvait et depuis Paris aussi. Et puis cette querelle religieuse. Alors qu'en 1914 tout est pacifié. Il y a eu des choses très complexes. Il y a eu la querelle des inventaires. Il y a eu un mort au moment de cette querelle des inventaires.
Ressurgira les forces de l'ordre sont allées faire l'inventaire
des biens d'église. Ressurgira quand même deux fois dans ce que j'appelle dans mon livre la longue période de pacification entre 1914 et 1989. Puisque le vote de la loi Debré en 59, tous ceux qui sont partisans d'une laïcité intransigeante, la gauche pour faire simple, va organiser de grandes manifestations contre la loi Debré. Et en sens inverse, le président Mitterrand en 81, il doit satisfaire la gauche du programme commun.
On se souvient.
Hostile à la loi Fallou, hostile à la loi Debré, ça va être le projet de loi Savary. Et là, ça va jeter un million de personnes dans la rue en 84.
On voit à quel point cette fracture parcourt notre histoire de façon forte. Lucien Jaume, sur cette période.
Sur cette période, je voudrais souligner ce que dit Jules Ferry.
Allez-y.
Dans sa grande circulaire de 1882 pour l'application de la loi sur l'enseignement de la morale et du civisme. L'immense majorité des enfants arrivent ayant déjà reçu ou recevant un enseignement religieux qui les familiarise avec l'idée d'un Dieu, auteur de l'univers et père des hommes, avec les traditions, les croyances, les pratiques d'un culte chrétien ou israélite. Ils ont déjà reçu les notions fondamentales de la morale éternelle et universelle.
Donc il y a un socle commun.
Ah oui.
Voilà. Jules Ferry dit bien « Je suis anticlérical, je ne suis pas anti-religieux. Jamais, dit-il, jamais. » Et de ce fait, il écrit cette phrase que Ferdinand Buisson, qui en réalité a écrit tous ses textes.
Oui, tout à fait.
Tous les textes sont écrits par cet homme issu du protestantisme.
Le grand artisan de la laïcité, Ferdinand
Buisson. C'est Ferdinand
Buisson,
trop oublié de nos jours. Cette phrase est capitale. « L'enseignement moral laïque se distingue donc de l'enseignement religieux sans le contredire. »
Sans le contredire. Donc voilà, on voit à la fois cette fracture et ces points de convergence quand même qui parcourent toute notre histoire.
Oui, certains disent l'école publique, c'est l'école catholique sans le catéchisme. Mais finalement, les deux défendent une même vision, une même morale, une même conception de la place de l'homme dans la société. Et c'est peut-être la grande différence avec aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, cette base, cette morale commune ou cette anthropologie commune ou ces repères communs, qu'on croit en Dieu ou qu'on n'y croit pas, cette matrice en tout cas qui a fait à la fois le catholicisme et les républicains n'existe plus. Elle a volé en éclats.
Bah, tout ça s'est effiloché. Il y a eu plusieurs chocs tout à fait fondamentaux. Il y a eu le choc de la mondialisation. Il y a eu d'autres modèles concurrentiels. On aura peut-être l'occasion de le dire. Le modèle américain, bien évidemment. Le modèle anglo-saxon qui est quand même très très différent du nôtre. Et puis à partir de 1989, il y a le surgissement de cette question de l'islam qui devient très prégnante. 89, c'est l'affaire du voile de Creil. Et là, tout va s'emballer. On va avoir une succession d'affaires à la suite.
Les racines du présent. RCF.
Au micro, Frédéric Mounier. Dans cette édition des Racines du Présent, nous nous efforçons de nous y retrouver dans les histoires de nos laïcités à la française. Depuis une vingtaine de siècles, on a vu à quel point tout cela est complexe, tout cela a été souvent violent. On voit comment des lignes de fracture parcourent notre histoire. Nous sommes en compagnie de l'historien Éric Anceau pour son livre « Laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent » chez Passé Composé. Nous sommes également en compagnie du philosophe Lucien Jaume pour son livre chez Talendier « L'éternel défi, l'État et les religions en France, des origines à nos jours ». Et puis Bernard Gors, journaliste à La Croix, qui suit cette question de la laïcité. Alors je voudrais vous faire écouter, si vous voulez bien, messieurs, un extrait sonore qui illustre bien les questions peut-être posées par notre laïcité aujourd'hui, puisqu'il nous faut en venir à notre période contemporaine. Il s'agit de la laïcité telle qu'elle est expliquée aujourd'hui aux collégiens. Je voudrais vous faire écouter un module pédagogique qui dure deux petites minutes, qui est proposé proposé au collège par Loumni. Alors Loumni, c'est le site qui regroupe tous les acteurs de l'audiovisuel public au service de l'éducation pour les élèves, les étudiants, les enseignants et les éducateurs. On va écouter ce petit module sur la laïcité et vous allez ensuite réagir.
La laïcité. Laurent est protestant. Il va au temple parce qu'il est amoureux de la fille du pasteur. Marie-Pierre va à la messe tous les dimanches et anime le catéchisme dans le collège de son fils. Slimane est musulman. Il fait le ramadan pour faire plaisir à sa mère, mais il ne croit pas vraiment en Dieu. Gabriel, juif fervent, éteint la lumière et ne touche plus à un appareil électrique dès le vendredi soir et tout le samedi, c'est Shabbat. Sophia dit qu'elle est catholique parce qu'elle est baptisée, mais elle ne va à l'église que pour les enterrements et les mariages. André est athée et quand on lui parle de Dieu, ça lui donne des boutons. Georges se demande si Dieu existe et ça l'angoisse parce qu'il voudrait bien qu'il y ait quelque chose après la mort. Alain est juif, il ne croit pas en Dieu, mais il fréquente la synagogue de son quartier parce qu'il apprécie le rabbin. Lucien est agnostique, Dieu ne l'intéresse pas. Noémie croit en la réincarnation et pense que dans une vie antérieure, elle était une fleur. Abdel, en revanche, prie 5 fois par jour en direction de la Mecque quand son travail lui en laisse le temps. Pour la majorité des Français, la religion est secondaire. Elle fait simplement partie de leur culture ou de leur passé. Pour d'autres, c'est primordial et ça conditionne beaucoup d'actions dans leur vie. Mais il s'agit de leur vie privée et ça ne regarde qu'eux. La France est un pays laïque, ce qui veut dire que l'État et les institutions religieuses sont séparés. Le pouvoir doit laisser la liberté de religion à chacun, ne doit favoriser aucune religion et n'afficher dans les bâtiments publics aucun signe religieux. Les membres de la fonction publique doivent être totalement neutres en matière religieuse. C'est très particulier à la France et ça date de la fin du 19e et du début du 20e siècle. En 1880, Jules Ferry, ministre de l'Éducation, décide que l'école est obligatoire, gratuite et laïque. Avant cette date, c'était l'Église qui dominait l'éducation et donc les consciences. En 1905, une majorité républicaine vote la séparation de l'Église et de l'État. L'État ne finance plus l'Église catholique, ne paie plus le clergé et ne considère plus le catholicisme comme la religion officielle du pays. Mais la laïcité vient de plus loin, de l'idée développée par les philosophes des Lumières qui, au XVIIe siècle, considéraient que la raison devait prévaloir sur la spiritualité et que la religion figeait l'homme dans un ordre établi, l'empêchant de s'épanouir et de se libérer. La révolution de 1789 a été porteuse de cette idée et s'est faite contre la noblesse, mais aussi contre le clergé qui dominait la société depuis des siècles et réglait la vie des Français. Depuis la Révolution, et en dehors des périodes de Restauration et d'Empire, le pouvoir entretient avec l'Église des rapports de méfiance. Aujourd'hui, malgré quelques intégristes religieux qui voudraient que leur Dieu s'impose à tous, l'idée de la laïcité est largement acceptée, même par les responsables religieux qui s'emploient à la respecter.
Voilà, c'est la laïcité telle qu'elle est proposée à nos collégiens dans le cadre de l'éducation nationale. Quelle est votre réaction, Éric Anceau, historien ?
Alors ma réaction déjà, c'est que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer, est quelqu'un très attaché à la laïcité, qui a beaucoup fait justement pour mieux la rendre pédagogique, je dirais. On a une petite pastille qui est destinée aux élèves. Oui. Bon, c'est une petite pastille qui est un peu simplificatrice hein, sur
forcément,
certains points.
Oui.
Il y a même une petite erreur. Bon, c'est la séparation des églises et de l'État, oui. Et pas de l'Église catholique et de l'État. Globalement, il n'y a pas d'erreur majeure. Hein. On cherche justement à faire un peu de la pédagogie de la laïcité. Et il y a les petits portraits au début voilà, qui sont un peu caricaturaux quand même. Mais on veut montrer que...
Mais chacun peut s'y reconnaître.
Et, voilà, et que tout le monde peut entrer dans cette laïcité qui permet de faire société en commun.
C'est ça l'enjeu fondamental. Lucien Jaume, en tant que philosophe, comment avez-vous entendu ce module pédagogique ?
Quand j'ai vu des erreurs, bon, il y a l'erreur sur les Lumières qui ne sont pas du XVIIe siècle, et ça c'est quand même très ennuyeux, parce que
d'accord.
Là c'est une confusion importante. Autrement, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Éric Anceau, c'est un effort pour rendre la chose appropriée par les enfants, c'est plus descriptif qu'explicatif, mais ça doit satisfaire tout le monde, me semble-t-il.
Oui. C'est bien ça la difficulté.
C'est un peu caricatural, parce que les religions, c'est aussi des pratiques, et notamment pour l'islam, et c'est seulement le juif qui est montré dans une pratique.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est quand même réducteur et en même temps désignateur,
si je veux
dire.
Exactement. On voit bien la difficulté. Bernard Gorz, vous qui suivez les questions de laïcité à la Croix, et comment réagissent les lecteurs à ces questions de laïcité ? Vous sentez que c'est à fleur de peau ? Vous sentez que c'est un sujet consensuel ?
Oui, c'est à fleur de peau. C'est l'inconvénient de ce mot laïcité qui est un peu un mot attrape-tout. bien souvent derrière, quand on parle des problèmes de la laïcité et tout, se pose surtout la question que vous l'aviez évoquée tout à l'heure, d'une société qui est devenue multiculturelle et notamment qui doit faire place à une nouvelle religion, je dis nouvelle entre guillemets, qu'est l'islam. Et bien souvent, c'est de ça dont on veut parler. Et c'est très compliqué d'aborder ces questions de laïcité, puisque souvent, en fait, on nomme par derrière, à travers un terme un peu passe-partout, la difficulté qu'il y a aujourd'hui à intégrer une nouvelle religion dans le paysage culturel français.
Très clairement, c'est ce que je disais Eric tout Anceau, à l'heure. Voilà. En 89...
Rappelez-nous le voile de Creil.
Je vais vous rappeler le voile de Creil. Oui. Jusqu'en 89, en dehors de ces deux querelles scolaires, mais qui sont des épiphénomènes, on pouvait considérer les choses comme pacifiées. Quand on se reporte dans les médias, mais on n'utilisait plus le mot laïcité, véritablement.
On n'en parlait pas.
Et c'est pas un sujet. Ce qui a cristallisé les problèmes, c'est cette affaire de Creil, en partie instrumentalisée, on le sait aujourd'hui, par des islamistes qui étaient derrière.
Déjà.
Certains ont réagi très vite, certains républicains authentiques ont réagi très vite, d'autres n'ont pas vu les choses. Le ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, a botté un petit peu en touche. Il s'est, vous savez, retourné vers le Conseil d'État, qui lui-même n'a pas été clair. Bayrou a édicté une circulaire, ça n'a pas suffi. Et il a fallu la loi de 2004 pour arriver à pacifier les choses. Le contentieux a immédiatement diminué. Et nous savons aujourd'hui, par des études de sociologie, que les jeunes filles qui ont pu, grâce à ça, s'émanciper du milieu familial, ont très très bien, les jeunes filles musulmanes, j'entends, ont pu très très bien réussir dans les études. Alors l'affaire de Creil, pour faire très très simple, c'est trois jeunes filles qui arrivent dans un collège avec le hijab, c'est-à-dire le foulard qui recouvre les cheveux, et un principal qui, au nom du principe de laïcité, refuse de les scolariser en les chassant pas, mais en leur disant, ben voilà, vous êtes placé devant l'alternative. Quand vous êtes dans l'enceinte, dans la classe, vous devez retirer, ou bien vous devrez vous faire scolariser dans l'enseignement privé. Et ça va s'envenimer parce qu'il va y avoir plusieurs affaires qui vont se greffer sur celle de Creil.
Et on n'en a pas fini aujourd'hui. Lucien Jaume, vous qui êtes philosophe, comment vous voyez cette irruption des islams dans le paysage religieux, intellectuel, politique français ?
La question est très vaste. ce que je vois, si vous voulez, c'est la difficulté de ne pas se laisser aller à des positions polémiques. Et nous avons affaire à trois monothéismes. Nous avons affaire à trois grandes religions. Allez-y. Ces trois monothéismes ont le droit d'exister dans le cadre des lois.
Oui.
Mais le problème que rencontre aujourd'hui le gouvernement français et la France de façon générale et le peuple français, c'est que... il n'y a pas une église constituée dans l'islam sunnite, qui est l'islam de notre
pas
présent.
De clergé, pas d'église, pas de représentants.
Nous ne sommes pas chez les chiites comme en Iran où il y a l'équivalent d'une église. Nous avons des individus musulmans. Or, l'État français, depuis toujours, ne négocie pas avec des individus. Il a besoin de rencontrer des structures, des institutions. C'est pourquoi, actuellement, le gouvernement, vous le savez, essaie de trouver des formes de représentation, comme déjà Sarkozy l'avait fait. Depuis déjà de longues années.
Et ça patine, c'est compliqué.
Il y a eu un pas colossal à mes yeux. C'est pourquoi je le reproduis en annexe de mon livre. C'est la charte des principes pour l'islam de France, sur le site de la Grande Mosquée. Et j'invite tous les auditeurs à aller voir sur le site de la Grande Mosquée cette charte qui est extraordinaire. Oui. Il n'y a plus de djihad, il n'y a plus d'apostasie, d'excommunication si vous voulez. Nous acceptons les droits de l'homme, nous acceptons...
Les droits de la femme.
Nous demandons l'égalité de l'homme et de la femme. Partageons la charte des droits fondamentaux de l'Europe. Nous n'admettons absolument pas que l'islam soit mis au service d'une politique. Que demander de mieux ? Alors, au début, trois organisations avaient refusé de signer. J'ai appris hier que, finalement, elles se sont ralliées. Donc, les huit organisations importantes, y compris dans les Comores, d'ailleurs, finalement, les huit organisations musulmanes importantes signent ce texte qui, pour moi, je le dis, est une révolution.
Bernard Gors, on avance sur ce dossier.
Allez, on avance. Et vous aviez évoqué tout à l'heure la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école. Il y a une loi qui vient d'être adoptée là en 2020. C'est la loi sur le
séparatisme.
2021 sur le séparatisme.
C'est entré en vigueur au début de ce mois de janvier.
Tout à fait. Certains s'interrogent, il y a un débat dans le monde intellectuel et j'aurais bien aimé vous entendre tous les deux. C'est est-ce qu'on est en train de changer de laïcité ou pas. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était plutôt dans une laïcité de tolérance ou qui permet la cohabitation des différentes religions. Et là, on passerait de plus en plus à une laïcité de contrôle.
Oui, je rappelle le contrat d'engagement républicain, l'existence du déféré laïcité qui permet au préfet de saisir le juge administratif contre une collectivité locale. Est-ce qu'on change de paradigme de laïcité, Éric Anceau ?
Pour moi, il n'y a pas un paradigme. En fait, c'est une évolution, vous l'avez bien compris, avec effectivement ce moment très fort qui caractérise notre laïcité, qui est la loi du 9 décembre 1905. Et il est vrai que c'est le plus grand changement, indéniablement depuis la loi de 1905. Mais encore une fois, c'est une évolution. Et pour moi, l'État est toujours là. Il est là qui surveille. Alors, à certains moments donnés, il lâche la bride. Et à d'autres moments, quand il le juge utile, eh bien, il va légiférer. Donc là, il y a des compléments à la loi de 1905 et aux trois lois complémentaires qui l'ont suivie en 1907 et en 1908. Par exemple, il y a un élément très important dans cette loi, si je puis me permettre, c'est le fait que désormais le principe de neutralité va s'étendre aux délégataires du service public, mais également aux conseils municipaux. On a vu dans certains conseils municipaux qu'il y avait une difficulté. On va être plus intrusif pour surveiller les prêches dans les mosquées. Et on a vu d'ailleurs que depuis la loi, alors les décrets, certains décrets d'application ne sont pas encore adoptés, ils vont l'être, et bien des mosquées ont été fermées plus qu'elles ne l'étaient avant. Et puis le troisième élément, et c'est l'élément, me semble-t-il, Bernard, qui pose le plus problème aux religieux. J'avais un débat sur Radio Notre-Dame l'autre jour. C'est l'école. C'est l'école. Parce qu'effectivement, là, l'État est un peu plus intrusif qu'il ne l'était avant dans le domaine de l'école. Et vous savez qu'en particulier, l'enseignement par correspondance ne devient plus qu'un succès d'année. Et ce qui devient obligatoire, c'est l'enseignement en présentiel.
Et là, il y a beaucoup de protestations. On a constaté aussi une certaine inquiétude de l'Église catholique sur les modalités de ce type de contrôle. Il nous reste une poignée de minutes, malheureusement. Lucien Jaume, vous considérez qu'on est en train de changer de laïcité, peut-être, dans cette affaire ?
Si je consulte un certain nombre de juristes actuels, par exemple Patrice Roland, qui est très calé en histoire politique et en histoire du droit, et qui est juriste, il y a un durcissement indéniable, parce que la loi de 1905, selon la volonté d'Aristide Briand, a été interprétée comme une loi libérale. Et actuellement, il y a incontestablement un durcissement. Le Conseil d'État s'en inquiète. L'Europe nous laisse libres. Elle a dit que finalement, c'était à chaque État d'agir selon ses traditions et ses coutumes. Le Conseil d'État s'en inquiète. Et j'ai des amis juristes qui sont extrêmement inquiets. L'Église peut s'inquiéter aussi de la question.
Oui, elle le dit du reste.
Elle le dit. Je ne suis pas
sûr. Elle s'inquiète de quoi exactement ? De la relégation au privé de la religion ?
Alors ça, c'est une autre question. C'est une question très vaste. Dans mon livre, j'ai abordé la question de savoir, faut-il défendre la parole publique des églises ? C'est une question très importante. Catherine Kinsler, par exemple, qui est une philosophe très intéressante, s'élève contre l'idée de la parole publique des églises. Moi, j'explique pourquoi, à mon avis, il faut défendre la parole publique des églises. C'est très important pour la réflexion de tous, des citoyens.
Bernard Gors, un tout dernier mot.
Oui, donc ça va être très très, très difficile de conclure un débat aussi vaste. Mais donc, il y a cette laïcité de contrôle, ce débat sur la laïcité de contrôle. Et le deuxième que vous évoquez, sur faut-il que la religion se soit limitée à la sphère privée ? Et ce débat-là, vous prenez clairement position. Vous dites qu'il y a un danger aujourd'hui à vouloir refouler le religieux.
Absolument.
À la sphère privée.
Absolument. Qu'on n'entende pas les juifs, qu'on n'entende pas les musulmans, qu'on n'entende pas les protestants, qu'on n'entende pas les catholiques.
C'est ça.
Sur toutes les grandes questions publiques, à mon avis, ça serait une régression terrible.
Merci à vous, Lucien Jaume. Je rappelle que vous êtes philosophe. Ça sera le dernier mot de cette conversation qui nous a conduit tout au long de 2000 ans d'histoire, histoire de nos laïcités, plutôt que de notre laïcité. On voit bien la violence, on voit bien les fractures qui ont toujours parcouru notre société. Je rappelle les titres de vos livres pour Éric Anceau, Laïcité, un principe de l'Antiquité au temps présent, c'est chez Passé Composé. De Lucien Jaume, philosophe, L'éternel défi, l'État et les religions en France, des origines à nos jours, c'est chez Talendier. Un grand merci à Bernard Gors, journaliste à la Croix, spécialiste des questions de laïcité, pour nous avoir aidé à nous y retrouver dans les histoires des laïcités, puisque tel était le thème de cette édition des Racines du Présent. Un grand merci également, comme chaque semaine, à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les références des livres de nos invités, et pas uniquement ceux que je viens d'évoquer, sur le site de RCF. Et évidemment, vous pouvez écouter ou faire réécouter cette émission en voiture, dans la rue, partout où vous voulez, quand vous voulez, en balado-diffusion et en podcast à partir du site de RCF et des sites de podcast. Merci à vous tous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.